Il y a 40 ans, en Occident, on écrivait « Dieu est mort ». Maintenant, on écrit « Au nom de Dieu ». Avec nous, Denis Girat. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ?
Je dirais que la phrase en soi est peut-être parlant ici, mais c'est très peu parlant dans un monde bouddhiste, parce qu'il faut savoir que dans le bouddhisme, tout s'explique sans Dieu. Tandis que dans le christianisme, rien ne s'explique sans Dieu, et surtout pas le phénomène de l'homme. Et je crois que nous avons peut-être une tendance de vouloir chercher chez l'autre ce qui est important chez nous. Et je vous raconte une petite histoire qui aide à comprendre cela. Quand j'étais au Japon, donc, des amis américains sont venus pour visiter le Japon. Et ils ont tous demandé de voir une maison japonaise de l'intérieur. Donc, j'emmène à la maison d'un ami japonais. Et ces amis américains entrent dans la maison et la plupart d'entre eux regardaient autour d'eux et puis me regardaient avec un regard un peu troublé. Ils disaient dans une toute petite voix, « Mais où est la table ? La table bien comme chez nous ?» Et j'avais toujours peur de cette question qui arrivait très très souvent parce que dès qu'on posait la question, on se mettait dans l'impossibilité de comprendre la cohérence interne de cette maison japonaise. Et donc de sa beauté. Et je crois que quand nous rencontrons d'autres religions, souvent nous entrons dans ces édifices, comme l'édifice bouddhiste, avec l'idée que là-dedans, il doit y avoir quelque chose qui corresponde à notre idée de Dieu. Et puis on commence à chercher cette chose, et le malheur, c'est que souvent on le trouve. Et puis on reconstruit totalement la maison bouddhiste autour de notre idée de Dieu. Et on pense avoir compris quelque chose, et la vérité, c'est qu'on n'aurait rien compris, parce qu'on est simplement en train de regarder dans un miroir.
Alors, comment est-ce qu'on peut entrer en dialogue ?
Avec les bouddhistes, je crois qu'il y a une manière très simple, c'est de justement mettre entre parenthèses, autant que faire se peut, notre idée de Dieu et ce qui est au centre de notre manière de regarder les choses, et simplement écouter les bouddhistes parler de l'homme. Et on va constater que le point de départ pour eux, dans leur démarche spirituelle, est très proche à notre point de départ d'une certaine façon, parce qu'eux, ils ont une expérience profonde, je dirais, de la souffrance. Souffrance dans un sens beaucoup différent que notre sens de terme, mais ils ont de frustration, etc., de le caractère éphémère de toute chose. Et ils souffrent de tout cela. Et côté chrétien, nous aussi, nous avons, si on est un peu lucide, un sentiment d'une réelle souffrance qui vient de fait que la vie doit être beaucoup plus que ce qu'on est en train de vivre. Donc les deux traditions, je préfère parler de voie que de voie, V-O-I-E, que de religion. Donc ces deux voies proposent à l'homme toute une série de pratiques qui aident l'homme à arriver à un véritable autodépassement.
Mm-hmm.
Ouais.
Oui.
On sort de cet égocentrisme qui nous plonge dans un comportement absolument terrible et qui crée des divisions et de souffrances en nous-mêmes et autour de nous. Cette expérience, alors là, nous la partageons avec les bouddhistes. Et nous sommes conscients tous les deux, les bouddhistes et les chrétiennes, qu'il faut une voie qui va nous aider à sortir de cela. Mais, et c'est là la grande différence entre le bouddhisme et les chrétiens, christianisme, la voie chrétienne est axée entièrement sur la relation. Ce n'est pas quelque chose de relatif. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'il y a une relation qui est brisée. C'est notre incapacité d'entre pleinement dans cette vie relationnelle qui fait que nous puissions devenir pleinement hommes. Et la voie chrétienne, c'est la voie de l'amour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de méditation, de sagesse et tout le reste, mais tout est axé sur la relation, cette rencontre entre des libertés irréductibles, la liberté de Dieu, la liberté de l'homme, mais la liberté des hommes entre eux-mêmes. Et ces libertés, comme je dis, sont irréductibles. Et donc l'accomplissement de l'homme est aussi relationnel. On va parler de communion de saints, des saints, etc. L'analyse bouddhiste est très différente, mais il faut essayer de comprendre la cohérence interne de cette tradition.
Est-ce que c'est votre expérience d'homme qui vous a entraîné vers cette recherche du bouddhisme ?
J'étais au Japon et je voulais comprendre le peuple japonais. dont j'ai étudié le japonais. Le Japon était pour les Américains ce qu'était peut-être le Maghreb pour les Français à une certaine époque. Et aussi, faut dire que mon père, il était dans la guerre, donc contre le Japon. Il y avait tout cet aspect aussi
de réconciliation.
Et c'est une vraie réconciliation. C'est extraordinaire de penser que les pires ennemis de mon père, maintenant, sont parmi les meilleurs amis. Je pouvais parler avec les Japonais, mais dès qu'on commençait à parler de sens de la vie, ils utilisaient un vocabulaire que je ne connaissais pas. Je cherche dans mes dictionnaires. Qu'est-ce que je trouve? Le mot japonais, qu'ils ont écrit les caractères. Hein. Mais à côté, c'était toujours l'équivalent était un mot chrétien. J'ai dit, mais ça ne peut pas être ça, quand même. Je parlais avec des jésuites. Ils ont dit, bah oui, évidemment, ce n'est pas ça, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils n'avaient aucune idée de ce que le sens de mot chrétien que nous utilisons pour traduire un mot bouddhiste ou shinto, etc. Ils ont dit, la seule façon, c'est d'étudier les religions du Japon. Et puis après, vous n'aurez plus besoin de traduire. Vous allez, les clés pour comprendre viennent de l'intérieur. Donc j'ai fait ça pendant encore un an, deux ans. Et c'est là où j'ai rencontré le bouddhisme, qui parmi toutes les traditions au Japon, me semblait le plus cohérente et aussi me semblait être le seul qui était véritablement universel. Le bouddhisme a quelque chose à dire à tout homme, où qu'il soit. Il faut dire que je suis une catholique née à Chicago, qui est une ville, c'est la ville où c'était la ville la plus catholique des États-Unis. Et j'avais cette éducation. Je dirais que l'axe fondamental de mon éducation chrétienne, catholique à l'époque, ça se résume dans ce qu'a dit un jésuite, où j'étais formé par des jésuites à Chicago aussi, qui dit que chaque chrétien, il a un seul, il est appelé à construire tout au long de sa vie une synthèse sapientielle. Une synthèse sapientielle. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de reculer devant aucune question. Il doit toujours aller plus loin. Vous ajoutez à cela le cardinal Newman, qui est une grande figure, qui dit 1000 questions ne fait pas un doute. Le chrétien est appelé à aller toujours plus loin.
Vous dites aller au fond des choses. Est-ce que aujourd'hui, finalement, c'est pas le devoir de tout homme, de tout chrétien, d'approfondir sa foi pour aller au devant de l'islam, au devant du bouddhisme, au devant d'autres religions? Et comment approfondir ce dialogue?
Ah, le dialogue, pour moi, c'est une véritable ascèse, le vrai dialogue, parce que le dialogue, c'est pas la tolérance. Le dialogue, dans le dialogue, on reconnaît que l'autre a quelque chose d'important à me dire sur le mystère même qui me fait vivre. Si je ne suis pas convaincu de cela, pourquoi est-ce que j'irai parler avec les musulmans, ou avec les bouddhistes, ou avec les confuciens, les shintoïstes, etc.? Et donc, on a besoin d'un certain fondement théologique et spirituel pour entrer dans ce dialogue. Pour moi, je dirais le point de départ, c'est la foi de l'Église aussi, c'est que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il est présent, chaque homme sur cette terre, et dès le premier instant de son existence. Si Dieu n'était pas présent à cet homme n'existerait point. C'est un Dieu aussi qui appelle l'homme à entrer en relation avec lui, finalement à partager sa vie. Et si on pense à toutes ces religions du monde, en quelque sorte, sont des fenêtres qui ouvrent sur le mystère de Dieu, parce que ces religions sont le résultat des efforts considérables qu'ont fait l'homme à travers l'histoire et dans des situations extrêmement différentes. Donc l'effort qu'il fait pour donner expression à ce qui le structure. Et ça, celui qui a les oreilles pour entendre et les yeux pour voir, il va découvrir dans ces religions l'Esprit Saint qui est au travail. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Jean-Paul II, dans Redemptoris Missio, donc la grande encyclique sur la mission, a dit que l'Esprit Saint dévance les missionnaires. Il est présent et actif, pas seulement dans les individus, mais dans les cultures et les religions.
Finalement, c'est une façon de changer de point de vue et aussi peut-être de se demander comment Dieu voit-il les différentes religions sur la terre.
Oui, de demander mais pourquoi il a fait ça. Et c'est à nous à chercher le sens, à nous à découvrir les choses. Finalement, ce dialogue, c'est un grand effort que nous faisons pour discerner l'activité de l'Esprit-Saint, c'est l'autre. Et c'est la reconnaissance très humble que bien que nous avons reçu Jésus-Christ, que Jésus-Christ et ce mystère qu'on ne va jamais cesser de découvrir, nous ne faisons qu'effleurer le mystère de ce qu'il est. Mais ces autres religions aussi, quelque part, ils sont en contact avec le Christ, parce que le Christ est le Verbe créateur, il est présent. Donc nous avons tout intérêt de se mettre à l'écoute, discerner, tout simplement pour aller plus loin dans notre effort pour sonder le mystère de Jésus-Christ. Et là, j'aime bien citer Camus, qui avait dit quelque chose d'extraordinaire à propos de dialogue. Il a dit que le plus fondamental de tous, c'est cette honnêteté, l'honnêteté qui reconnaît que quand on entre dans le dialogue, il faut parler de sommet des autres religions et pas des sous-produits. Le dialogue ne se fait pas au niveau des sous-produits, donc la violence, etc. Le sommet chez nous, c'est Jésus-Christ, c'est l'Évangile. Et c'est là où il faut chercher pour entrer dans le dialogue. Tout ce que nous disons sur Dieu doit obligatoirement passer à travers une profonde contemplation de la manière d'être de Jésus-Christ dans ce monde, parce que la manière d'être de Jésus-Christ dans ce monde est la manière d'être de Dieu dans le monde. Et si on regarde Jésus-Christ, il est un homme de relations, des relations qui visaient une seule chose, mettre celui en face debout.